On aurait dit un samedi matin comme un autre. Chaque jour était identique au précédent. Les heures s'écoulaient si lentement que je n'avais pas vu les mois se transformer en années. En me préparant un café, j'ai regardé un jet bleu et un étourneau se battre pour des miettes dans la mangeoire. Ni l'un ni l'autre ne remarquait le chat au pelage semblable à de la confiture d'orange, tapis en dessous d'eux, prêt à bondir. J'ai pris mon temps sous la douche. J'ai essayé de décoller la crasse de l'isolement avec de l'eau chaude et savonneuse. La solitude était devenue un environnement. Elle était l'air que je respirais, la dimension spatiale dans laquelle j'étais enfermée. J'étais sur un bateau, sur une mer mortellement calme, attendant un courant d'air pour gonfler mes voiles. C'est pourquoi je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait de manière aussi spectaculaire, une fois de plus, ce jour-là. Ça s'est fait très simplement, vraiment. J'ai aspiré un millimètre d'hormone dans une seringue, je l'ai brandi au-dessus de ma cuisse nue et je me suis arrêtée. Mon bras semblait retenu par une main invisible. J'avais beau essayer, je n'arrivais pas à planter cette seringue dans mon quadriceps, comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Je me suis levée et j'ai regardé dans le miroir de la salle de bain. L'intensité de la tristesse que j'ai vue dans mes yeux m'a effrayée. J'ai étalé de la mousse sur ma barbe naissante du matin. Je l'ai raclée proprement avec un rasoir et je me suis aspergé le visage d'eau froide. Mes joues avaient encore un aspect rugueux. J'avais beau aimer ma barbe comme une partie intégrante de moi-même, je me sentais emprisonnée derrière elle. Ce que j'ai vu dans le miroir n'était pas un homme, mais je n'arrivais pas à y trouver la « il-elle ». Mon visage ne reflétait plus les contrastes de mon genre. Je voyais mon passing, mon image masculine, mais même moi, je ne parvenais plus à voir l'être plus complexe qui se cachait sous ma surface. J'ai regardé loin en arrière et je me suis souvenu de l'enfant qui ne pouvait pas être catalogué par Sears. Je l'ai vu face à mon propre miroir, dans le costume de son père, me demander si j'étais la personne qu'elle allait devenir en grandissant. « Oui », je lui ai répondu. Et je me suis dit qu'elle était vraiment courageuse d'avoir commencé ce voyage, d'avoir résisté au jugement écrasant. Mais qui étais-je maintenant ? Femme ou homme ? J'avais lutté avec ardeur pendant longtemps pour être incluse comme femme parmi les femmes, mais je m'étais toujours sentie exclue à cause de mes différences. J'avais compté sur mon passing pour me cacher. Mais plus que ça, j'avais espéré qu'il me permettrait d'exprimer cette part de moi-même qui n'avait pas l'air d'être une femme. Cependant, je n'avais pas réussi à explorer le fait d'être une « il-elle ». J'étais simplement devenue un « il », un homme sans passé. Qui étais-je maintenant ? Une femme ou un homme ? Je ne pourrais jamais répondre à cette question. Pas tant que ces réponses seraient les seules possibles. Pas tant que cette question serait posée. J'ai songé à cette longue route que j'avais parcourue. Tout du long, c'est à travers mes propres yeux que j'avais regardé le monde. Et tout du long, au fond de moi, je me sentais moi-même. Que se passerait-il si le vrai moi pouvait faire surface, changé par ce voyage ? Qui serais-je ? Tout à coup, j'avais besoin de savoir. Que vaudrait ma vie si je m'arrêtais juste avant de le découvrir ? La peur et l'excitation me prenaient à la gorge. Où est-ce que j'allais maintenant ? Qui étais-je en train de devenir ? J'étais incapable de répondre à ces questions. Mais le simple fait de me les poser annonçait un changement tumultueux, bouillonnant jusque sous la surface de ma conscience. J'ai fouillé mon appartement pour trouver une cigarette, mais quand j'ai attrapé le paquet, j'ai regardé ma main l'écraser. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je me débattais dans une eau trouble et profonde. Mes bras et mes jambes s'agitaient dans tous les sens, se heurtant à la résistance de cette mélasse. J'avais mal aux poumons à force de retenir ma respiration. J'avais désespérément besoin d'air. J'ai commencé à nager lentement vers la surface. La pression de mon corps s'est relâchée. J'ai senti un velours liquide glisser sur mes mains alors qu'elles fendaient l'eau. Je pouvais voir le ciel, des facettes de lumière miroitant au-dessus de moi. Mes poumons étaient sur le point d'exploser. J'ai brisé la surface de l'eau. J'ai senti le soleil et un courant d'air sur mon visage, chaud et frais à la fois. J'ai entendu le son de mon propre rire. Je crois que j'étais vraiment convaincue qu'une fois l'effet des hormones dissipé, je découvrirais que j'avais bouclé la boucle et que j'étais rentrée chez moi, dans mon propre passé. Mais le voyage n'était pas encore terminé. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai vu Teresa faire ses courses au Kmart. Quand je l'ai reconnue, j'ai arrêté de respirer. Elle avait à peine changé. Est-ce qu'elle aurait dit la même chose de moi ? Je me suis cachée derrière le rayon de sous-vêtements masculins et je l'ai regardée. Qu'est-ce qu'elle ferait si je l'appelais? Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras et me ramène à la maison. Après tout, elle m'avait quittée parce que je commençais les hormones, et maintenant j'avais arrêté. Pourrait-elle m'aimer à nouveau? J'ai vu quelqu'un passer son bras autour de Teresa. J'ai tourné dans l'allée centrale pour mieux voir cette femme. C'était la même soft butch qui m'avait ouvert la porte chez Teresa presque 10 ans plus tôt. La même amante. Qu'est-ce que Teresa pouvait bien trouver à cette butch du samedi soir? C'était tellement plus difficile d'être dans ma peau. J'avais besoin de l'amour de Teresa bien plus qu'elle. Je détestais l'admettre, mais elle devait avoir quelque chose de spécial pour que Teresa soit amoureuse d'elle. J'ai entendu le rire de Teresa, chaleureux et apaisé. Son visage s'est plissé d'affection. C'est là que j'ai su que je n'étais pas en train de rentrer à la maison, que je n'étais pas en train de faire le trajet dans l'autre sens. J'avançais à toute vitesse vers une destination qui m'était invisible. Et si je devais à nouveau un jour me retrouver dans les bras de Teresa, ce serait dans un futur lointain, pas maintenant. Je suis sortie du magasin avant qu'elle me voie. J'ai pris ma moto et je suis rentrée en vitesse chez moi, juste avant de me mettre à pleurer. Je suis restée allongée sur mon lit pendant des heures, jusqu'à ce que cette après-midi pesante se transforme en soirée. Derrière la fenêtre de ma chambre, des feuilles de chêne bruissaient dans le vent et les lampadaires projetaient leurs ombres sur mes murs. Le chant des cigales s'était levé, puis est retombé. Teresa m'avait demandé de lui envoyer une lettre un jour. Je voulais l'écrire maintenant. Je voulais vraiment déposer sur le pas de sa porte une liasse de phrases enveloppées comme un cadeau. Des mots qui pourraient éclairer le ciel de la nuit. Des mots qui pourraient apaiser et guérir. Mais les mots n'étaient pas encore prêts à sortir. Durant cette longue nuit, j'ai réalisé que si l'amour avait suffi, je n'aurais sans doute jamais perdu Teresa. Mais je l'avais bel et bien perdue. Je voyais bien qu'on était arrivé à la croisée des chemins. C'était la vérité. Mais ce n'était pas toute la vérité. Je savais aussi que j'avais perdu Teresa petit à petit, au cours de notre relation, bien avant qu'on ne se sépare. J'avais été au centre de son monde, et elle était devenue mon monde, tout entier. Quand mon univers s'était rétréci, j'avais eu besoin qu'elle soit tout pour moi, et en retour, j'aspirais à être tout ce dont elle avait besoin. Nous ne pouvions ni l'une ni l'autre satisfaire de telles attentes. Et pourtant, comment aurait-il pu en être autrement ? Aurais-je pu, à la fin de la journée, ne pas m'effondrer à genoux en lui demandant d'être mon sanctuaire? En m'aimant comme elle m'aimait, comment aurait-elle pu refuser? Les seuls moments où je me sentais acceptée et protégée, c'était quand elle prenait ma tête sur ses genoux et me caressait le visage. De son côté, elle m'avait demandé de 1000 manières d'admettre mes propres besoins. Je ne sais pas où, à part auprès d'elle, j'aurais pu chercher de la sécurité dans ce monde plein de dangers. Et je ne crois pas que son amour pour moi aurait survécu si j'étais restée barricadée dans ma forteresse. Peut-être que le problème avait été de commencer à croire que son amour pouvait être un rempart, de commencer à le vouloir, à le réclamer. Elle avait peut-être cru qu'en essayant juste un peu, elle réussirait à me protéger. Est-ce qu'essuyer le sang de mon visage tournait en ridicule sa force et sa puissance? Les choses seraient-elles différentes si on se retrouvait à nouveau dans les bras l'une de l'autre? Un jour, je lui dirais ces petites choses que je commençais à comprendre. Mais pour le moment, je pouvais seulement lui écrire cette ligne, un court poème sorti du cœur serré d'une île-elle. Particulièrement dans la nuit froide, quand les branches feuillues dessinent des motifs sur les murs, quand la conscience disparaît doucement et laisse place au sommeil qui clapote contre mes rivages, dans ce long instant sans contrôle, les braises du souvenir rougeoient doucement et apportent à l'obscurité une teinte différente. Il ne s'est rien passé quand j'ai arrêté de prendre des hormones. Pendant des mois, je me levais tous les matins et filais directement vers le miroir, haletant d'impatience. Rien ne changeait. C'était un peu décevant. Il a fallu des heures d'électrolyse pour sentir de nouveau la douceur de mes joues. Un matin, je me suis levée et j'ai trouvé du sang de règle dans mon slip. Je l'ai jeté. Je voulais éviter de prendre le risque que quelqu'un de la blanchisserie se rende compte de la contradiction apparente. Mais le vrai chamboulement avait lieu en moi. Il fallait que je sois honnête avec moi-même. C'était aussi impératif que de respirer. Quand je me suis assise seule et que je me suis demandé ce que je voulais vraiment, la réponse était « du changement ». Je ne regrettais pas ma décision de prendre des hormones. Je n'aurais pas survécu longtemps sans passing. Et la chirurgie avait été un cadeau à moi-même, comme un retour dans mon propre corps. mais je ne voulais pas me contenter d'un semblant d'existence, tel un étranger qui éviterait à tout prix de s'engager. Je voulais découvrir qui j'étais, me définir moi-même. Peu importait qui j'étais, je voulais m'y confronter, je voulais me vivre à nouveau. Je voulais être capable de raconter ma vie et de décrire le monde tel que je le voyais. En même temps, j'avais tellement peur de me montrer au grand jour et de faire face au monde une fois de plus. Je me suis demandé pourquoi il avait fallu que je choisisse les premières années de l'administration Reagan et l'essor de la moral majority pour réclamer le droit d'être moi-même. Est-ce qu'ils allaient armer des villageois de torches et de pieux pour me traquer à travers champs? Est-ce que j'allais me retrouver seule, menottée dans une cellule, sans personne vers qui me tourner si je survivais au cauchemar? Mais là, j'ai dû admettre que peu importait qui était à la Maison Blanche, ça avait toujours été difficile d'être moi. Entre le marteau et l'enclume, quelque chose me disait que cette vie n'allait pas devenir plus facile. J'avais pourtant déjà traversé beaucoup de choses, et je n'avais pas vraiment l'impression que ça pouvait empirer. Une fois de plus, je ne voyais pas la route qui s'ouvrait devant moi. J'étais encore en train de traverser ma propre trajectoire à travers des eaux inexplorées, en me fiant à des constellations mouvantes. Si seulement il y avait eu quelqu'un quelque part à qui j'aurais pu demander « Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais une telle personne n'existait pas dans mon monde. Quand il s'agissait de vivre ma vie, j'étais le seul expert, la seule personne vers qui me tourner pour avoir des réponses. Tonebridge Blues, Leslie Feinberg.